Les cours du Collège de France, Nalini Anantaraman, chère géométrie spectrale.
Bonjour. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse la preuve du théorème d'ergodicité quantique. Et après, on commencera, s'il reste du temps, on commencera à parler d'entropie des fonctions propres. Donc là, j'ai réécrit le théorème d'ergodicité quantique sous la forme qu'on l'avait énoncée à la fin de l'heure précédente. Donc on était parti d'un opérateur de Schrödinger, sur une variété compacte par exemple. On avait appelé P0 le Hamiltonien classique qui va avec, donc là il y a une partie énergie cinétique et un potentiel. Et on s'intéresse aux fonctions propres de l'opérateur de Schrödinger. Souvent en mathématiques, on se contente de s'intéresser uniquement aux Laplaciens, parce que en fait toutes les difficultés de la preuve sont déjà contenues dans le cas où il y a seulement le Laplacien, mais comme quelqu'un avait posé une question sur ce qui se passe pour les Hamiltoniens plus généraux, je vais présenter la preuve dans ce cadre-là. Et je vais appeler Φ T. Φ T, c'est le flot Hamiltonien engendré par P0. Donc c'est la dynamique classique. Et on va s'intéresser aux valeurs propres dans un certain intervalle E1, E2. Et l'hypothèse importante, c'est qu'on va supposer que la dynamique classique, elle est ergodique sur chacune des couches d'énergie entre E1 et E2. Pour la mesure microcanonique. La mesure de Liouville ou la mesure microcanonique. Dans le cas où il y a uniquement le Laplacien, finalement, c'est plus simple puisque toutes les couches d'énergie sont les mêmes. Et donc, quand on a un Hamiltonien général, on doit vraiment faire l'hypothèse d'ergodicité sur chacune des couches d'énergie qu'on veut considérer. Et ici, j'ai écrit l'énoncé sous une forme très légèrement différente de la dernière fois. J'ai supposé directement que la moyenne... Je pars d'une observable classique et je suppose directement qu'elle a une moyenne nulle sur chacune des couches d'énergie dans mon intervalle. Et ce qui va m'intéresser, c'est pour chaque fonction propre, je regarde l'élément de matrice diagonale entre psi... A de x, dx et psi. Et ce que dit le théorème d'ergodicité quantique, c'est que si je prends la moyenne de ces termes-là sur toutes les énergies dans l'intervalle qui m'intéresse, donc là, j'ai juste divisé par le nombre de termes, par le nombre de valeurs propres dans cet intervalle, cette moyenne tend vers zéro. Alors, et ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que comme on a une moyenne de nombres positifs, dire que la moyenne tend vers zéro, ça ne veut pas forcément dire que tous les termes sont petits, mais ça veut dire quand même que la plupart des termes sont petits. D'accord ? Donc, pour presque toutes les fonctions propres, on peut dire que cette quantité-là est petite. Il y a deux choses qui ne sont pas écrites au tableau, mais qui sont importantes, c'est qu'il faut prendre une base orthonormée de fonctions propres. Et l'autre chose, c'est que simplement pour que la mesure microcanonique soit bien définie, il faut supposer que dans cet intervalle E1, E2, il n'y a pas de valeur critique du Hamiltonien. Voilà. Alors, pourquoi je peux supposer... la dernière fois, je n'avais pas supposé ça, mais en fait, on peut toujours s'y ramener. Si la moyenne de A n'est pas nulle sur chaque coup d'énergie, sinon on remplace l'opérateur A, on lui soustrait une certaine fonction de l'énergie. Et je prends la fonction F, c'est simplement l'intégrale de A sur la couche d'énergie. Donc on peut toujours se ramener à supposer que la moyenne de A est nulle sur chaque couche d'énergie. Voilà. Donc on va faire la preuve. Il y a une chose qu'on va utiliser à la fois aujourd'hui mais aussi plus tard, c'est que si je prends une fonction f suffisamment régulière, c'est 0 infini, si je fais f, Je peux toujours définir une fonction de l'opérateur de Schrödinger par calcul fonctionnel, hein, en diagonalisant l'opérateur. Mais si f est suffisamment régulière, en fait, on peut montrer que cet opérateur-là, c'est un opérateur pseudo-différentiel et son symbole principal, c'est simplement grand F de P0. Alors, ce que ça veut dire, c'est que au départ, cet opérateur, il est défini de manière abstraite juste par diagonalisation. Mais en fait, si on peut vraiment écrire en coordonnées locales ce que fait cet opérateur, si je l'applique à une fonction g. C'est ce que dit je réécris simplement l'énoncé du théorème. Ce que ça dit, c'est que cet opérateur, si je l'applique à une fonction g, je peux vraiment écrire que c'est quasiment la même chose que... Ça, c'est l'expression qu'on avait vue hein, pour un opérateur pseudo-différentiel en coordonnées locales. Il faut mettre g de y quelque part. Je peux quasiment écrire ça, simplement il y a un reste, il y a un terme d'erreur. Mais ça me dit qu'en fait cet opérateur qui au départ est défini de manière abstraite, en fait on peut vraiment, si f est suffisamment régulière, on peut vraiment écrire en coordonnées locales ce qu'il fait à une fonction. Et en particulier ça permet, ça sera utilisé peut-être de manière implicite mais un peu tout le temps. Et ça permet en particulier de démontrer la loi de Weil qui nous dit en particulier comment se comporte. La loi de Weil permet de compter hein, le nombre de valeurs propres dans un intervalle. Alors, la loi de Weil, on va la démontrer. En fait, la loi de Weil, elle se calcule en calculant donc, de deux manières la trace de cet opérateur. Quand on veut calculer la trace d'un opérateur, soit c'est la somme sur les valeurs propres. Donc, si j'écris ça, ça va être la somme des f. D'accord, ça c'est la somme sur tout. Ça vient de la définition abstraite de cet opérateur. Et puis par ailleurs, c'est aussi l'intégrale du noyau de l'opérateur sur la diagonale. Et là, du coup, maintenant, comme j'ai une expression approchée du noyau de l'opérateur, je peux écrire ça. Alors j'aurai un reste qui va être un petit taux de h, mais je vais pouvoir dire que c'est si j'écris l'intégrale du noyau de l'opérateur, ça va faire l'intégrale. Alors j'ai un reste qui n'est pas complètement explicite, mais si on s'intéresse uniquement au terme dominant, c'est pas grave. Et ça va faire, là il faut que je fasse x égale y, donc ce terme disparaît, et ça va juste faire dx, dxi sur 2pi h bar. Donc en particulier, je peux uniquement, si je m'intéresse juste au comportement dominant, je peux juste dire que c'est équivalent quand h tend vers 0 à ce terme-là. Alors ça, au départ, on l'écrit pour f suffisamment régulière, mais ensuite, on a envie de prendre f une fonction indicatrice qui vaut 1. On a envie de prendre pour f la fonction indicatrice de E1, E2. Alors simplement, on va approcher cette fonction indicatrice par des fonctions C infini à support compact, et on va raisonner par encadrement, mais si on s'intéresse que au terme dominant, en fait, on peut approcher la fonction indicatrice par des fonctions régulières, et donc ça va me donner que le nombre. Ah, maintenant, si f c'est une fonction indicatrice, je suis juste en train de compter le nombre de valeurs propres dans E1, E2, et là, ce terme-là, ça va être le volume. Ça va être le volume symplectique. Alors, je vais sortir les. Ça va être le volume symplectique de l'ensemble des points où l'énergie est comprise entre E1 et E2. Donc ça, c'est la loi de Weil. Et dans l'énoncé de tout à l'heure, ce nombre-là, c'est ce que j'ai appelé. C'est le nombre de termes dans la somme. Hein, c'est ce que j'ai appelé grand N de E1 E2. Donc une bonne manière de comprendre la loi de Weil, c'est de pour compter le nombre de valeurs propres entre E1 et E2, je regarde dans l'espace des phases, je regarde l'ensemble des points où l'énergie classique est comprise entre E1 et E2, et je compte intuitivement, hein, le principe d'incertitude de Heisenberg nous dit qu'en mécanique quantique, on ne peut pas distinguer deux points dans l'espace des phases s'ils sont à distance plus petite que racine de h. Donc je compte simplement le nombre de cubes de taille racine de h que je peux mettre dans cette région. Et en fait, ça donne vraiment la bonne estimée pour le nombre de valeurs propres. C'est simplement d'essayer de remplir cette zone classique par des cubes de taille racine de h et de compter combien on peut remettre. Et alors de la même manière, avec un calcul du même genre, toujours par un calcul de traces, si maintenant, au lieu de juste compter les valeurs propres, on veut sommer sur des éléments de matrice, ça aussi, je peux l'écrire comme la trace, de l'opérateur A. Et de la même manière, on peut montrer que c'est équivalent quand H tend vers 0 à l'intégrale de A pour la mesure symplectique, la mesure de Liouville, et toujours sur l'ensemble des points dont l'énergie classique est comprise entre E1 et E2. Ça, c'est le même genre de calcul. On écrit de deux manières différentes une trace. Et donc maintenant, si je fais le quotient de ça par ça, hein, si je fais l'asymptotique 1 divisé par l'asymptotique 2, si je fais le quotient, je vois que le quotient il a une limite finie quand h tend vers 0, qui est l'intégrale de a pour la mesure de Liouville. Simplement, maintenant, la mesure de Liouville est normalisée pour voilà. Donc, il y a un facteur de normalisation, qui sort, qui fait que, en fait, si je prends A égale 1, je dois trouver que cette mesure doit valoir 1. Ça, c'est toujours vrai. Ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai sans utiliser l'ergodicité. C'est simplement un calcul de traces. Donc là, ce qui est important dans l'ergodicité quantique, c'est que c'est vraiment la présence de ces valeurs absolues qui ne sont pas ici. D'accord ? Voilà, donc maintenant, on peut démontrer le théorème. Cette quantité-là, souvent, on l'appelle la variance quantique. Enfin, je sais que ce mot est utilisé dans d'autres contextes pour autre chose, mais dans la littérature mathématique, en tout cas en chaos quantique, cette quantité-là, on l'appelle souvent la variance quantique, et on va dire que c'est pour les énergies entre E1 et E2. Et on va mettre un carré ici, ça ne change rien au résultat, mais pour la démonstration, c'est plus pratique de mettre le carré. D'accord, le résultat, avec ou sans le carré, les deux sont équivalents. Donc on veut montrer que cette variance quantique tend vers 0, quand h bar tend vers 0. Alors, il y a une première étape, c'est d'utiliser le fait qu'ici, on a des fonctions propres. Vous vous souvenez, on avait dit que quand on a des fonctions propres, bien, ce qu'on va utiliser, c'est que quand on a des fonctions propres, les éléments de matrice diagonaux, ils sont invariants par évolution temporelle de Heisenberg. C'est-à-dire que si je conjugue l'opérateur par le groupe unitaire engendré par P, ça donne la même chose, d'accord ? Et ça, on avait vu le théorème d'Egorov, qui nous dit que si on est en temps fixé ou pas trop grand, si on prend une observable classique, qu'on la quantifie en un opérateur et qu'on évolue par le flow de Heisenberg, c'est quasiment la même chose que d'avoir fait l'évolution classique. C'est quasiment la même chose que d'avoir transporté A par l'évolution classique. Et il y a une erreur, mais qui tend vers zéro dans la limite semi-classique. Donc ça nous dit que cette variance quantique, elle reste quasiment inchangée si je transporte A par la dynamique classique. C'est pas une égalité, il y a une erreur, mais qui va tendre vers zéro. Et puis je peux le faire pour un temps fixé, mais ce qu'on va faire, c'est de moyenner en temps, puisqu'on peut le faire pour chaque temps. On peut même dire que c'est vrai si je moyenne A en temps, pendant un temps grand T, le long des trajectoires classiques. Et là, pour cette démonstration, on va fixer grand T pour l'instant. On n'a pas besoin de faire tendre tout de suite T vers l'infini. Et ici, on voit apparaître, alors, en théorie ergodique, c'est ce qui s'appelle les moyennes temporelles, moyenne de Birkhoff aussi. On va la noter comme ça. C'est la moyenne de A. Pendant un temps T, le long des trajectoires. Et pour l'instant, j'ai pas encore donné la définition de l'ergodicité. Donc j'en profite pour la donner ici. L'ergodicité, c'est de dire que si je prends la moyenne temporelle de A le long d'une trajectoire, ça va converger vers la moyenne microcanonique quand t tend vers l'infini. La moyenne microcanonique, voilà, c'est la moyenne sur la couche d'énergie qui correspond à ma donnée initiale. Hein. Donc E, c'est l'énergie de la donnée initiale. Hein, c'est ce qu'on appelle les moyennes temporelles convergent vers les moyennes microcanoniques. Et cette convergence, elle a en général pas lieu pour toutes les données initiales. Elle a lieu presque sûrement. Ici, je raisonne toujours par rapport à la mesure de Liouville. Elle a lieu presque sûrement, elle a lieu aussi en normale 2, donc en moyenne quadratique. On va utiliser dans la démonstration, en fait, on va juste utiliser la convergence en moyenne quadratique. Voilà, donc l'étape 1 de la preuve, c'est simplement de constater que la variance, elle reste quasiment la même si on moyenne le long des trajectoires. L'étape 2, c'est aussi, je ne vais pas encore utiliser l'ergodicité, c'est une estimée a priori. En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, en fait, on peut faire passer le carré à l'intérieur du produit scalaire. Ça, j'utilise Cauchy-Schwarz. C'est-à-dire que voilà, je vais me servir. Je vais mettre ici A étoile A. Du coup, j'enlève la valeur absolue et je fais passer, par contre, maintenant l'opérateur apparaît ici au carré. Et ça a devenu simplement une majoration, mais simplement maintenant. Ça, c'est vraiment une trace et je peux utiliser ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, ça, c'est quasiment la même chose. Je vais réécrire là. Le produit A étoile A, par les règles générales qu'on avait vues sur les opérateurs pseudo-différentiels, c'est quasiment la même chose que si j'avais mis A au carré. Je vais supposer que A est à valeur réelle pour ne pas. C'est quasiment la même chose si j'avais mis A au carré à une petite erreur près. Hein, donc, la variance, en fait, je vais pouvoir. La majorée, donc ça c'est quasiment la même chose que a carré de x dx. Et maintenant je peux utiliser, ça tombe bien, c'est encore au tableau, je peux utiliser ça avec a au carré maintenant. Donc la limite de la variance, ou la limite sup, parce qu'on ne sait pas a priori s'il y a une limite, la limite sup de la variance quand h tend vers 0, je peux toujours la majorer par l'intégrale de a au carré. Ça c'est toujours vrai, hein, uniquement en appliquant les règles du calcul pseudo-différentiel. Et maintenant, donc, je vais mettre ensemble ça et ça. Ça va permettre de terminer la preuve. Je vais peut-être pour l'instant encore garder ça. Donc c'est dans la dernière étape qu'on va utiliser la propriété d'ergodicité. Donc je reprends le fait que la variance... Je vais prendre tout le temps la limite, ou la limite sup. Donc, je réécris le fait que cette variance quantique, elle reste la même, à peu près la même quand je moyenne en temps. Et maintenant, je vais utiliser cette majoration-là. Cette intégrale-là, par rapport à la mesure de Liouville, je vais plutôt maintenant la réécrire en décomposant couche d'énergie par couche d'énergie. Hein, je vais intégrer. Je vais d'abord intégrer par. Enfin, en fait, c'est toujours P0 compris entre E1 et E2. Donc maintenant, je vais vraiment réécrire cette même intégrale en intégrant couche d'énergie par couche d'énergie. Je peux tout aussi bien intégrer d'abord pour la mesure microcanonique sur chaque couche d'énergie, puis ensuite intégrer en énergie. Et maintenant, en fait, c'est là que j'utilise l'hypothèse d'ergodicité pour dire que c'est l'hypothèse que j'avais faite dans le théorème. Je sais que sur chaque couche d'énergie, cette quantité-là va converger. Donc jusqu'à présent, T était fixé, mais maintenant, tout à la fin, je peux faire tendre T vers l'infini. Et sur chaque couche d'énergie, cette quantité, elle converge vers l'intégrale de... Elle converge vers la moyenne microcanonique. Hein, c'est ça, mais qui était supposée nulle. Donc sur chaque couche d'énergie, en fait, ça tend vers zéro. Donc ça me dit que finalement, cette limite sup est nulle. Ça me dit donc que la variance tend vers zéro. D'accord ? Donc là, j'ai utilisé vraiment l'ergodicité sur chaque couche d'énergie. Alors comme j'avais dit la dernière fois, en fait, cette démonstration, elle est à peu près due à Elfer, Martinez et Robert. Sauf que eux, ils avaient simplement supposé l'ergodicité sur une couche d'énergie. Parce que c'est assez fort, en fait, de supposer l'ergodicité dans tout un intervalle d'énergie. L'ergodicité, c'est pas forcément stable par petite perturbation. Donc c'est pas parce qu'on suppose l'ergodicité sur une couche d'énergie que les couches d'énergie voisines vont forcément être ergodiques. Donc eux, ils avaient simplement supposé l'ergodicité sur une couche d'énergie et ils avaient le même genre d'énoncé, sauf qu'on prend un intervalle spectral dont la taille tend vers zéro. Alors, quelques petites remarques pour faire le lien en particulier avec ETH. Donc ça, là, la preuve est terminée. Hein. Alors déjà, une remarque sur la vitesse de convergence. Vous voyez ici, on a juste montré que ça tendait vers zéro, mais on n'a pas obtenu, une vitesse. Alors ici, on a raisonné à grand T fixé. Si on voulait essayer d'obtenir une vitesse de convergence, il faudrait essayer de faire tendre T vers l'infini en même temps qu'on fait la preuve. Mais par ces techniques semi-classiques, on est limité. On a vu qu'on était limité à de l'ordre de log H, qui s'appelle le temps des runfest. Donc si on essaye de faire ça, il y a des situations où on sait obtenir une vitesse. Par exemple, si on est sur une variété de courbure négative, on peut obtenir une majoration de la variance en 1 sur log H. Ça, c'est ce qui peut être obtenu pour le flot géodésique en courbure négative. On a besoin pour ça d'utiliser... En fait, on a besoin, si on veut estimer la variance par cette méthode, on a besoin de savoir la vitesse de convergence vers zéro ici. Et donc, on utilise le théorème central limite pour le flot géodésique. Ça permet au mieux d'obtenir une décroissance logarithmique, ce qui est conjecturé. Alors, je pense que c'est en supposant que le flot doit être suffisamment chaotique. Hein. Donc, il faut probablement supposer plus que l'ergodicité. Ce qui est conjecturé, c'est qu'on devrait pouvoir obtenir une borne supérieure qui doit être, si je ne dis pas de bêtises, en h puissance d-1. Je rappelle que, oui, je n'ai pas redit, mais d, c'est la dimension de la variété, donc 2D, c'est la dimension de l'espace des phases. Alors on est très très loin de, savoir faire ça, hein. D'avoir un ordre de grandeur de cette variance, on est très loin. Le seul cas où il y a quelque chose de connu, c'est dans le cadre de la surface modulaire. Donc dans la surface modulaire, en particulier, comme c'est une surface, c'est D égale 2. Et là, il y a une... c'est des résultats de Sarnak et Jao. Alors c'est des techniques vraiment différentes où on utilise de la théorie des nombres, on utilise des techniques arithmétiques et il faut supposer que les fonctions propres sont aussi des fonctions propres des opérateurs de Hecke, mais dans ce cas-là ils peuvent démontrer un équivalent. Alors là ça va juste faire H et puis il y a une constante qui sort qui dépend de l'observable A. Alors, si j'ai compris ce que dit ETH, alors déjà, ce que j'ai compris, c'est qu'en principe, normalement, ETH, ça concerne plutôt des systèmes à many body, à plusieurs corps, mais rien n'interdit d'appliquer aussi les idées de ETH à un corps. Et dans ce cas-là, ce que nous a dit Dimarski, c'est que ETH ressemble beaucoup à l'ergodicité quantique, sauf qu'en fait, on veut vraiment savoir plus précisément à quoi ressemble le reste. Donc par exemple, je pense, si j'ai compris, que ETH nous dirait... Alors il faudrait dire déjà... nous dit que pour certaines observables, on peut écrire que c'est que l'élément diagonal, c'est égal à une certaine... moyenne microcanonique, mais ce qui est important dans ETH, si j'ai compris, c'est vraiment de comprendre le reste qui doit être de la forme. Donc non seulement on doit connaître l'ordre de grandeur, il va y avoir une constante qui va dépendre de l'observable et de la couche d'énergie. Et puis tout ça, c'est on veut connaître la distribution limite du reste. Ça, c'est une variable aléatoire. Peut-être gaussienne, ça je sais pas si on veut que ça soit gaussien, mais en tout cas, dans ETH, on veut vraiment un théorème limite pour le reste. C'est ce que j'ai compris, et donc je pense que dans l'exposé de Laszlo, on parlera justement un peu ce genre de choses, mais pour des... pas en partant d'un système dynamique classique, mais en partant déjà de matrices aléatoires. Et en plus, dans ETH, on veut dire des choses sur les éléments de matrice hors de la diagonale. Alors, pour les éléments de matrice non diagonaux, il y a un résultat de Zeldich qui dit des choses Zeldich a un article où, je vais pas énoncer très précisément son résultat, mais où, en supposant que le flow classique est faiblement mélangeant, il arrive à avoir un résultat un peu de ce type-là pour les éléments non diagonaux, mais toujours sans estimer précise sur le reste. Donc pour si on veut appliquer ce genre d'approche semi-classique et qu'on veut comprendre les éléments hors diagonaux, il faut supposer plus que l'ergodicité, il faut supposer que le flow est faiblement mélangeant. Et on n'obtient jamais, d'informations très précises sur les fluctuations en faisant comme ça. Et puis peut-être la dernière chose que je veux dire, c'est qu'en fait on peut aussi, en général, le théorème d'ergodicité quantique, on l'énonce toujours avec les fonctions propres. Mais on peut aussi l'énoncer, il y a aussi une version dynamique qu'on peut énoncer. C'est quelque chose qu'on avait remarqué avec Gabriel Rivière il y a un certain nombre d'années. C'est possible que d'autres personnes l'aient remarqué aussi. Hein. En faisant la même démonstration, on peut écrire une version dynamique du théorème d'ergodicité quantique. Alors on va partir d'états initiaux qui ne sont pas des fonctions propres, mais par exemple, pour fixer les idées, on va partir de masses de Dirac. On va partir de conditions initiales qui sont des masses de Dirac. Et on va les faire évoluer. On va d'abord les tronquer. Comme on a dit qu'on s'intéressait uniquement à un certain intervalle d'énergie, on va les tronquer en énergie. Donc je prends cette masse de Dirac en X, mais je lui applique le projecteur spectral associé à mon opérateur de Schrödinger, mais je ne garde que les énergies entre E1 et E2. Donc c'est des masses de Dirac, elles sont régularisées, hein, mais j'ai gardé que les énergies entre E1 et E2. Je vais même peut-être plutôt garder un niveau d'énergie, ça sera plus simple. Je vais me placer au voisinage d'une énergie E. Il faut penser que epsilon va tendre vers 0 avec H bar. Et donc maintenant, on va s'intéresser, on se donne toujours une observable A. Et maintenant, on va l'évoluer, par le flow de Heisenberg, et on regarde les éléments de matrice sur notre base de masse de Dirac tronquée en énergie. D'accord. Et puis, on moyenne en temps, il y avait exactement le même genre de choses dans l'exposé de Dimarski, on moyenne ça en temps. Et on a envie de dire que ça, c'est quasiment la même chose que la moyenne de A, sur la moyenne de A microcanonique. Et en fait, si je suppose l'ergodicité du flow classique sur la couche d'énergie E, et si je refais vraiment la même preuve, alors idéalement, on aimerait bien dire que ça converge vers zéro, mais un peu comme tout à l'heure, on peut montrer que ça converge vers zéro pour la plupart des X, mais rien n'interdit qu'il puisse y avoir quelques conditions initiales pour lequel ça tend pas vers zéro. En fait, ce qu'on montre, c'est que si on prend comme ça la différence entre les deux, et que maintenant on moyenne en x, en fait ça tend vers zéro. Alors il faut que t tende vers l'infini. Donc encore une fois, le fait de devoir moyenner en x et que la moyenne soit petite, ça permet pas de dire que pour tous les x cette chose est envers zéro, mais ça permet de nous dire que pour la plupart des X, cette moyenne-là temporelle est presque la même que la moyenne microcanonique, mais rien n'interdit qu'il y ait un petit nombre de conditions initiales pour lesquelles ce ne soit pas vrai. Alors j'ai ressorti, ça c'était une remarque qu'on avait faite avec Gabriel Rivière au cœur d'un article, mais la raison pour laquelle j'ai ressorti ça, c'est que en fait, dans son exposé, Anatoly Dimarski, il nous a fait un raisonnement qui nous montrait que si on connaissait l'ergodicité pour les fonctions propres, ou ETH pour les fonctions propres, alors on pouvait en déduire une version dynamique de la thermalisation. Et la manière dont il avait raisonné, c'est qu'il avait dit que si on prend n'importe quelle condition initiale, je peux toujours la décomposer sur la base des fonctions propres, et ensuite, quand je moyenne en temps, les termes non diagonaux vont disparaître, et donc je peux utiliser ce que je connais sur les fonctions propres pour dire des choses aussi sur la version dynamique. Mais si vous vous souvenez, quand il avait fait ça, il avait dit par exemple qu'il faut supposer que le spectre est simple, parce que quand je moyenne en temps, je veux être sûr que les termes non diagonaux disparaissent. Ici, ça ressemble, mais ce n'est pas le même raisonnement que je fais. Ici, je dis vraiment, je refais, enfin, je ne vais pas le faire en réalité, mais c'est juste, je reprends exactement la preuve que je viens de faire. Alors, ce qui est important, par exemple, pourquoi j'ai choisi les masses de Dirac, c'est parce que les masses de Dirac, elles ont la propriété que... elles ont la propriété que vous avez vu, il y a cet argument de trace là qui est important. La trace d'un opérateur A, si c'est un opérateur sympathique, je peux toujours l'écrire comme l'intégrale de delta x à delta x dx. En fait, on peut faire ce raisonnement pour n'importe quelle famille d'états initiaux qui ont une propriété comme ça. On pourrait faire avec des états cohérents, par exemple, à condition de savoir les définir. Mais on a besoin d'une famille d'états initiaux qui a cette propriété. Et à partir de ce moment-là, on peut juste refaire la preuve du théorème de Schneerellman. Donc ça ressemble, c'est très proche de quelque chose qu'avait dit Dimarski, mais en fait ici, je n'utilise pas le résultat sur les fonctions propres. Et j'ai, par exemple, je n'ai pas besoin que t tende vers l'infini très vite. Parce que je ne dis pas que la moyennisation va tuer les termes diagonaux. En fait, c'est juste que je dis qu'on peut refaire la même démonstration. Et c'est un peu moins connu, cette forme-là, mais ça a son intérêt aussi, je pense. Voilà. Alors, on a fini cette partie du cours sur le théorème d'ergodicité quantique. Et maintenant, je veux passer au résultat sur l'entropie et le support des mesures semi-classiques. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller au-delà du théorème d'ergodicité quantique, puisque le théorème d'ergodicité quantique nous dit quelque chose qui va être vrai pour presque toutes les fonctions propres, mais on a envie de savoir s'il peut ou non y avoir des fonctions propres qui ont un comportement différent, pour lequel on n'a pas cette approximation-là. Je pense que je vais continuer à garder les notations semi-classiques, mais par contre, à partir de maintenant, j'ai plus de potentiel, hein. Donc à partir de maintenant, j'ai V égale 0, je suis sur une variété compacte. Ça veut dire que simplement, quand j'écris cette équation aux valeurs propres, je suis simplement en train de réécrire d'une autre manière l'équation des valeurs propres du Laplacien. Mais je vais garder la notation semi-classique parce que elle est quand même assez pratique. Et donc on va continuer à s'intéresser aux éléments de matrice. Je vais peut-être reprendre la notation hop. Donc maintenant, l'idée... Dans le théorème d'ergodicité quantique, on a compris comment se comportait cette chose-là pour presque toutes les fonctions propres, mais maintenant on voudrait vraiment avoir des résultats individuels. Et une première construction qu'on peut faire, hein, c'est de dire que quitte à extraire une sous-suite, comme c'est une suite bornée, on peut toujours extraire une sous-suite qui converge vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on veut essayer de comprendre. Et l'objet inconnu, c'est mu. Alors ça, on va supposer que A est dans une classe de symboles raisonnables, par exemple dans la classe S0. Et donc mu, c'est dans le dual de S0, a priori. Ça, c'est juste un argument abstrait d'analyse fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vais supposer que E... Ouais, je vais le noter comme ça. Oui, je vais supposer que je me place au voisinage de la couche d'énergie 1. Et les choses qu'on peut dire a priori sur cette forme linéaire mu, on peut dire que mu appliqué à la fonction 1 donne 1. Parce que si je fais a égale 1, ici j'obtiens l'identité. Alors oui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais toutes mes fonctions d'onde, elles sont normalisées pour que l'intégrale du carré fasse 1. Donc, cette forme linéaire mu, si je l'applique à la fonction 1, je trouve 1. Enfin, il y a un certain nombre de propriétés en fait, qui passent à la limite quand h-bar tend vers 0 à partir des propriétés de cette quantité. Donc, par exemple, on peut montrer que si a est une fonction positive, alors mu appliqué à a va être positive. Et ça s'obtient par passage à la limite à partir du fait que ici, si je mets un opérateur positif, cette quantité-là est positive. Donc là, ça nous dit qu'en fait, mu, c'est une mesure de probabilité. Et puis le fait qu'on regarde l'énergie qui, l'énergie quantique qui tend vers 1, ça passe à la limite pour nous dire que mu, donc c'est une mesure de probabilité, et en fait elle va être portée par une couche d'énergie, portée par la couche d'énergie, alors il y a toujours ce 1/2, si on le met on est embêté, si on le met pas on est embêté aussi, donc. Mais en fait je veux regarder les vecteurs de normes. Les vecteurs de norme 1, c'est-à-dire le fibré unitaire cotangent. Donc ça, c'est ce qu'on obtient par passage à la limite à partir du fait qu'on a choisi des valeurs propres qui tendent vers 1. Donc, et puis la dernière chose, c'est qu'à partir de la propriété qu'on a déjà utilisée dans la preuve du théorème de Schneerlmann, hein, que quand on a des fonctions propres, cette quantité-là, elle est invariante. Ça, c'est P. Elle est invariante par évolution de Heisenberg. Donc le fait que cette quantité-là soit invariante par évolution de Heisenberg, à la limite, ça nous dit que la mesure mu, elle est invariante par évolution par le flot classique. Donc, ça veut dire que phi... Ça veut dire que mu de phi t d'un ensemble B, c'est égal à mu de B. Donc on a comme ça quatre propriétés qui sont juste obtenues par passage à la limite. Et maintenant, on veut savoir... Ça, c'est vrai dans un contexte général. Et on veut maintenant arriver à aller plus loin et à dire vraiment plus de choses sur cette mesure mu. Et par exemple, on a la conjecture d'unique ergodicité quantique. Alors en mathématiques, elle apparaît pour la première fois, elle est formulée par Sarnak, Rudnik et Sarnak. Je pense qu'en physique, elle devait apparaître dans des articles de Voros, cette idée. Oui. Donc en physique, je pense que... Enfin, même, je pense que Sarnak dit que c'est Voros qui a dû lui en parler la première fois. Mais bon, voilà, elle est vraiment écrite dans des articles de maths de Rudnik et Sarnak, qui dit que si M est de courbure strictement négative, c'est-à-dire ça... En particulier, ça implique que le flot géodésique a des propriétés chaotiques très fortes. Alors, en fait, la mesure mu, c'est mu de A, c'est l'intégrale. Alors, c'est sur la couche d'énergie, hein, mais c'est l'intégrale de A dx. Voilà, dxi. C'est la mesure de Liouville, la mesure microcanonique. Donc, ça, bon, sous cette forme comme ça générale, hein, elle est ouverte, cette conjecture. C'est-à-dire, on sait dire que pour presque toutes les fonctions propres, on a bien cette mesure comme limite. Mais si on veut vraiment être sûr de ne pas avoir à exclure un petit nombre de fonctions propres, on pense que ça doit être le cas en courbure négative, mais c'est pas démontré. Dans le cas des surfaces arithmétiques, telles que la surface modulaire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et si on choisit de prendre des états propres qui sont aussi des états propres des opérateurs de Hecke, on sait démontrer cette conjecture, c'est les résultats de Lindenstrauss, mais ici, on va s'intéresser à des variétés assez générales. À partir de maintenant, voilà, on va juste supposer qu'on est en courbure strictement négative. Alors, ce qui est connu, à part le résultat de Lindenstrauss sur les surfaces arithmétiques, ce qui est connu dans un cadre général... Donc à partir de maintenant, voilà, je vais toujours supposer qu'on est en courbure négative, hein, dans le reste de ce chapitre. Alors on sait toujours qu'il y a une quantité qui s'appelle l'entropie, que je vais définir, je pense, dans les 15 minutes qui restent. Cette entropie est non nulle, elle est strictement positive. Donc ça, par exemple, ça exclut... comme un cas particulier, hein, ça exclut par exemple le cas où mu serait porté par une trajectoire périodique, mais ça exclut encore beaucoup d'autres situations. En fait, si la courbure est constante égale à moins 1, on a même une meilleure borne, hein, et toujours D, c'est la dimension de M. On peut même... on peut avoir une borne inférieure qui est meilleure, qui va dire que cette entropie, elle est plus grande que D-1 sur 2. Alors ça, c'est ça que je vais démontrer la prochaine fois. Donc ça, c'était des choses que j'avais faites avec Stéphane Donnan-Macher. Et la troisième chose, c'est que la mesure mu, elle est positive sur tout ouvert non vide. Et ça, c'est les résultats. Alors c'est en dimension quelconque. Par contre, le troisième point, c'est en dimension 2. C'est pour les surfaces. Ça utilise en fait des résultats d'analyse harmonique qui, pour l'instant, sont connus seulement en petite dimension. Et ça, donc, c'est Dyatlov. Alors, c'est Dyatlov-Jean en courbure constante et Dyatlov-Jean Nonan-Macher en courbure variable. Voilà, alors je pense que là, dans le temps qui me reste, dans le quart d'heure qui me reste, je vais en fait expliquer ce que c'est que l'entropie d'un système dynamique pour pouvoir ensuite, on va démontrer la forme numéro 2. Donc, l'entropie d'un système dynamique classique. Alors, je vais donner la définition générale, mais évidemment, on va vouloir l'appliquer au cas particulier de cette mesure mu qui est obtenue comme limite de fonction propre. Mais d'une manière générale, le cadre général, c'est qu'on a un espace des phases X, muni d'une tribu, et puis on a une mesure mu, et on a une transformation phi mesurable qui préserve la mesure mu. Ça veut dire que mu de l'image réciproque d'un ensemble B est égal à mu de B, pour tout B mesurable. Alors, ça, voilà, ça c'est le cadre général, mais nous, il faut qu'on garde en tête que X, ça va être une couche d'énergie dans notre espace des phases. Mu, ça va être la mesure là qu'on a obtenue comme passage à la limite, à partir d'un passage à la limite, à partir de fonctions propres du laplacien. Et puis, la transformation qu'on va regarder, c'est par exemple le temps 1 du flot géodésique. Bon, il se trouve que nous, dans le cas qui nous intéresse, en fait, le temps est continu. Mais dans la définition de l'entropie, on va considérer un temps discret. Hein, c'est pas restrictif. Donc c'est le temps 1 du flot hamiltonien. Et en fait, ce qu'on fait pour définir l'entropie, en fait, on va discrétiser notre espace des phases. On le coupe en un nombre fini de morceaux. Donc c'est des ensembles disjoints, a priori seulement mesurables. Donc c'est une partition mesurable. Et finalement, à partir de cette partition, on va coder. En fait, quand j'ai maintenant un point dans l'espace des phases, donc je peux considérer un alphabet fini, qui est juste l'ensemble de 1 à n. C'est un alphabet fini. Et finalement, on va remplacer notre espace des phases par un espace de suite dans cet alphabet. C'est-à-dire qu'à un point dans l'espace des phases, on va simplement associer la suite alpha 0, alpha 1, alpha n ou n est dans n, en disant que je veux que y appartient à l'élément p alpha 0. Donc au temps 0, y il est dans le numéro, il est dans le morceau numéroté alpha 0. Si je suis sa trajectoire et que je regarde où il arrive au temps 1, il arrive dans un autre morceau, qui est le morceau numéro alpha 1, etc. Et au temps n, j'associe au temps n, si je regarde au temps n où arrive la trajectoire de y, elle arrive dans le morceau numéro alpha n. Alors ce qu'on remarque, hein, c'est que simplement c'est une espèce de codage. Je vais appeler cette application, je vais l'appeler C comme codage. Bon, de manière simple, si je regarde quelle est la suite associée à phi de y, c'est la même suite, sauf que j'ai juste oublié. C'est la même suite décalée de 1. Ça veut dire que cette application de codage, elle a la propriété que le mot associé à phi de y, c'est le mot associé à Y, shifté de 1 vers la gauche. Hein, sigma, c'est l'opération qui consiste juste à décaler les suites. Et maintenant, si ici j'ai une mesure qui est invariante, ici j'ai une mesure mu qui est invariante par phi, si je transporte tout ici, je vais me retrouver avec une mesure qui est invariante, qui est stationnaire par le shift. Alors ici, j'avais une mesure mu quand je transporte tout, je vais me retrouver avec une mesure que je vais appeler peut-être mutilde. Je vais peut-être avoir tendance à les noter de la même manière, mais c'est bon, j'ai juste transporté mu par cette application de codage. Donc en fait, si mu était un invariante par transport par phi, alors mutilde, elle va être invariante par le transport par le shift. Et finalement, on va juste appliquer à mu la définition de l'entropie de Shannon. Quand on a une mesure sur un ensemble de suites et cette mesure est invariante par translation, on va reprendre la définition de l'entropie de Shannon. Alors je vais introduire quelques notations. Alors on va parler d'un ensemble cylindrique. Je vais avoir un petit peu tendance à identifier ce côté-là et ce côté-là. C'est-à-dire que au départ, normalement, l'ensemble cylindrique, il est défini comme sous-ensemble de l'ensemble des suites. C'est l'ensemble des suites dont les premières lettres sont fixées, alpha 0, alpha 1, alpha n moins 1. Mais de ce côté-là, c'est simplement l'ensemble des points dont la trajectoire commence par visiter P alpha 0, puis P alpha 1, jusqu'au temps n moins 1. Donc ça correspond à l'ensemble des y dans x, tel que y est dans P alpha 0, phi de y est dans P alpha 1, et ceci jusqu'à un temps n moins 1. Phi n moins 1 de y appartient à P alpha n moins 1. Donc c'est l'ensemble des conditions initiales dont un mot donné jusqu'à l'instant n-1. Et on va s'intéresser à la mesure de ces ensembles cylindriques. Alors je devrais mettre peut-être un tilde, mais voilà, je pense que je vais utiliser la même notation des deux côtés. Alors je vais énoncer quelques propriétés qui sont un peu évidentes, mais la raison pour laquelle je les énonce, c'est qu'après, on le fera la prochaine fois, j'aurais envie... Pour un système dynamique quantique, j'aurais envie de copier un peu cette définition. Et les propriétés que j'écris là, elles sont beaucoup moins évidentes. Enfin, certaines continueront à être vraies et d'autres seront plus vraies. Alors, il y a une première propriété, c'est que la somme... C'est ce qui s'appelle la condition de compatibilité. Hein, c'est que la somme des mesures... Si je rajoute une lettre et que je somme sur tous les alpha n... Je tombe bien sur la mesure de alpha 0, alpha n-1. Le fait que la mesure mu elle soit invariante par le shift, je vais enlever le tilde, je pense, je peux le réécrire. L'invariance par le shift, ça revient à dire que si maintenant je rajoute une lettre au début, que je somme sur toutes les lettres, voilà, j'ai écrit la condition de compatibilité, et là, c'est l'invariance par le shift. Et quand on essaiera de copier cette définition pour un système dynamique quantique, donc en particulier non commutatif, ça sera pas forcément toujours aussi évident de garder ces propriétés, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste le temps de dire ? Alors, l'entropie de la mesure mu. Alors c'est sous-entendu ici, c'est l'entropie pour la partition P. J'ai utilisé une partition P pour discrétiser mon espace des phases. C'est la formule usuelle, hein, c'est somme des H des mu de PI. Et la fonction grand H, c'est moins X log X. Donc c'est une fonction qui est comme ça. Mais maintenant, je vais vouloir prendre des partitions de plus en plus fines en rajoutant de l'information sur... c'est l'entropie qui correspond à juste l'information sur où je suis, dans quel morceau P je suis au temps zéro. Mais maintenant, je vais vouloir raffiner cette information. Alors, ce qu'on regarde, c'est qu'on va regarder l'entropie au temps N. Ça va être la somme... sur tous les cylindres alpha 0, les cylindres de longueur n, de h, on va mettre le bon. D'accord, maintenant, ça revient à dire que je prends l'entropie de mu pour la partition p et toutes ces itérées, intersectées avec toutes ces itérées jusqu'au temps n. Donc, autrement dit, PN, c'est je pars de ma partition de l'espace des faces P, mais je l'intersecte avec tous ces itérés ou n ou n-1. Je continue à appliquer cette formule, mais en prenant des partitions de plus en plus fines, en rajoutant à chaque fois l'information sur où je suis au temps, en des temps successifs. Et voilà, ça va. Je vais m'arrêter en énonçant la propriété de sous-additivité, qui va être vraiment importante. Parce que justement, c'est cette propriété de sous-additivité qui va être difficile à obtenir quand on va essayer de faire la même chose pour des systèmes dynamiques non commutatifs. En fait, si on calcule l'entropie au temps n plus m, donc j'ai dit que c'est l'entropie de la mesure mu, mais pour la partition p évoluée jusqu'au temps n plus m, pardon. Et en fait, une chose qui est toujours vraie, c'est que c'est plus petit que l'entropie de mu pour l'évolution jusqu'au temps n, plus l'entropie de mu. Alors il faut prendre, je ne vais pas écrire le détail, mais cette inégalité-là, c'est juste la concavité de la fonction h qui intervient, la fonction grand h. Donc là, on met la partition évoluée jusqu'au temps m, et ensuite on la transporte par phi n. Ou autrement dit, je pourrais aussi écrire que c'est peut-être mieux comme ça. Donc juste en utilisant la concavité de grand H, en fait, on peut voir que l'entropie de mu au temps n plus m, elle est plus petite que l'entropie de mu au temps n, plus l'entropie de mu transportée par phi n au temps m. Et maintenant, comme j'ai supposé que la mesure était invariante par le système dynamique, ça c'est... autrement dit, j'ai hn plus m plus petit que hn plus hn. Et voilà, on verra la prochaine fois les conséquences de cette inégalité. Et ce qu'on a essayé de faire pour définir une entropie d'un système dynamique quantique, mais en essayant autant que possible de garder cette propriété. Et comment on peut s'en servir pour passer à la limite h tend vers 0. Et voilà, c'est l'heure d'arrêter. Donc on reprend dans un quart d'heure avec l'exposé de Laszlo.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.